Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 16 juin 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Ça vit dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD et pas télé. Suivi de ça, c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et l'infirmerie. Et à 15h, le potager, 16h, scène transmission, à 17h, vous retrouvez toute l'équipe en direct du Summer Festival. À 19h, programme décalé avec Big Bang, 21h, vie d'ordure et 21h30, stay tuned, vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin. Un supplément week-end sans Thomas cette semaine avec du sport qui va arriver. La semaine prochaine, nous recevrons une dessinatrice chinoise dont on a beaucoup parlé dans cette émission, à savoir Jidi, et plein d'autres choses. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est un programme plutôt relax avec de la sortie BD, avec un peu de programme cinéma anglais en ce moment en ville à la Cinémathèque de Toulouse, rue du Thor, et ainsi que les fins de saison, excusez-moi, sur les chaînes de télévision. En général, c'est pas très folichon, mais ça, du sport, on parlera beaucoup mieux que moi. Roger Sanchez, Another Chance, l'original mix. Ouais, j'aime bien la passer, celle de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu dépressif. Mais bon, Stay Tuned sur FMR 89.1, c'est le supplément week-end. Émission numéro 118 déjà, et on approche de la fin de la troisième saison. We'll be right back.
chance tonight. I tried to tell you that the things we had were right. If I had another chance tonight, I tried to tell you
ce supplément week-end du samedi 16 juin. Grand Dieu, je viens à peine de me rendre compte que dans 5 jours, c'est la fête de la saucisse et de la bière en très grande quantité. C'est la fête de la musique le 21. Ouais. Et donc l'été. Et ben, donc un morceau langoureux et sympa, Another Chance, Roger Sanchez. Ouais, c'est pas la première fois que je le fous en intro, mais c'était un petit truc comme ça. Cette semaine, Thomas n'est pas là. C'est pas le seul changement sur cette antenne, puisque donc tout à l'heure, eh ben, sachez que vous retrouverez l'équipe habituelle de la radio en direct du Summer Festival. Ils sont donc en direct à partir de 17h, ce qui fait qu'il y a un gros bazar. Donc du coup, Big Bang est décalé à 19h, Vidor dure à 20h. Et s'ils sont gentils, Stay Tuned pourra commencer à 21h30, à peu près proprement. Donc tant mieux, et puis ça va être cool. La semaine prochaine, on reçoit Gigi, qui est la dessinatrice de My Way, qui donc est une série, des histoires graphiques absolument sublimes, des poèmes autour de l'amour, de la relation amoureuse et de la rupture. Pour le premier tome. Le deuxième tome s'appelle Time Ocean, c'est autour de la mort, et ça vient de sortir chez Chiaopan. Le bouquin il est arrivé hier. Donc je l'ai en main. Sachez qu'elle sera en dédicace samedi prochain à la Fnac La Beige. Ah oui, désolé, c'est pas dans le centre-ville. À partir de 15h, mais qu'on l'aura sur le plateau en direct sur Radio FMR dans le supplément week-end à partir de midi. du sport chauffe ses lunettes et chausse son Marcel. Oui, je sais, oui, Tony Parker, oui, le plus grand rappeur, most valuable rappeur.
Non.
T'as, toi aussi, t'as écouté l'album, je suppose.
Non.
Bon, bah, t'as pas loupé grand chose. Hein, si tu
bon, on l'a reçu à la radio. Hein.
Oui, tout à fait, je me demande si. Non, bon, rien. Et du coup, du sport, là, il sait plus où donner de la tête de la zapette entre le festival de la télévision à Monte Carlo et le salon de la télévision à Paris, un truc monté par Emmanuel Chin et qui fleure bon l'autopromo. Ça, il en parlera tout à l'heure, de même qu'il parlera de cinéma anglais, de l'occasion du mois du film anglais dans la Cinémathèque. Ça, on a déjà commencé à en parler la semaine dernière de Made in London. Ce sera toujours mieux que parler du marathon des mots. Bon, d'ailleurs, strictement rien. Et n'oubliez pas d'aller voter demain. Parce que je crois pas qu'il y ait eu de député qui a été élu du premier coup à Toulouse. Non, pas du tout, non. Tiens, c'est marrant, je me demandais aussi pourquoi Douste Blasi n'était pas revenu. Il a laissé Moudak. Ambiance grinçante, bien sûr. On entame les sorties bande dessinée avec le marathon de Pierre Jabus et de Romuald Rottiman. Pierre Jabus au scénario et Romuald Rottiman au dessin. Cité 14, saison 1. Le deuxième épisode vient de sortir et s'appelle La Tour Bambelle. C'est aux éditions Paquet. Je rappelle que le principe, c'est faire une espèce de série de feuilleton en plusieurs saisons et des saisons annuelles de 12 épisodes. Et chacun disponible en librairie à 1€, ce qui vaut vraiment pas cher vu la qualité quand même du travail. Un petit peu vexé qu'on lui ait demandé s'il est anarchiste, Michel, l'éléphant, vient tout juste d'échapper aux officiers de l'immigration. Et quand il a rencontré le journaliste Hector McKay, qui le met un peu au courant de cette fameuse Cité 14, cherchant à se loger, Hector l'amène à son appartement dans l'illustre tour Bambelle, un immeuble prestigieux qui a connu des jours meilleurs, en totale décrépitude. Pendant ce temps-là, un juge débonnaire et encore honnête prononce quelques peines de réclusion ferme sans convoquer de jury, c'est-à-dire en évitant la peine de mort. C'est quand même un petit peu plus rapide. Soyons efficaces et économes. Dans l'univers à la fois rétro-futuriste, décadent et dégradé et bizarrement animalier, les auteurs nous font découvrir la vie des habitants de leur Cité 14. À petite dose mensuelle pour un tarif tout à fait raisonnable, c'est le retour des grands feuilletons populaires papier, ceux qui ont créé le concept de série et de périodicité. Gros pari pour les auteurs qui en parlent sur leur blog, cité14.com. Cité 14, saison 1, épisode 2, La Tour Bambelle est en librairie, aux éditions Paquet, scénario de Pierre Gabus et dessin de Romuald Rottiman. Continue dans les sorties bande dessinée avec une série assez grinçante et assez noire, Go Go Heaven. Le premier tome est sorti chez Kana, le deuxième arrive, est déjà d'ailleurs en vente en librairie, j'ai pas eu le temps de chroniquer le premier. Shinji Obara au scénario, Yuko Omino au dessin, c'est dans la collection Bikana chez Kana. Et au Japon, le suicide est la première cause de décès des jeunes et la première cause de retard des trains. Pour les vieux, c'est plutôt la crise cardiaque. 30 000 personnes choisissent ce mode de sortie pour cause de mauvaises notes, d'un déshonneur au travail, de dettes trop importantes ou d'un manque de respect familial. Dans un pays où la réussite et le respect de la hiérarchie est élevé comme unique valeur, le suicide est culturellement le seul moyen de laver l'affront. Ce qui, suite à la crise économique, a entraîné l'explosion de la génération des années 1990 en rupture avec leurs parents. Tout part d'un dégoût de soi, d'une très forte envie d'en finir avec cette chaîne de vie. De quatre jeunes femmes dégoûtées de la vie, broyées par une société fortement normée. Julia a 20 ans, dégoûtée de n'avoir jamais réussi dans un domaine artistique et pas vraiment d'avenir professionnel. Imiko, 26 ans, prostituée sadomaso, violée dans sa jeunesse. Michael, 19 ans, une poupée gothique qui n'a pas ouvert la bouche depuis 10 ans et qui vit encore chez ses parents. Et Aya, office Lei, qui a eu une aventure avec un de ses supérieurs qui la méprise, qui la considère tout juste bonne pour les photocopies. Ces quatre désespérés se sont rencontrés dans un forum sur le web. En partageant leur envie d'en finir, elles décident de monter un pacte de suicide. Oui, mais pas une fin comme les autres. Sur scène, devant des centaines de gens, lors de leur unique concert, de leur groupe de rock formé spécialement pour l'occasion, en s'électrocutant sur scène. Mais elles ne parviendront pas à leur fin. Par mélange de bonnes chances mal placées et d'escroqueries rock'n'rollesques, elles tenteront plusieurs fois en vain de mettre fin à leur jour sous les feux de la rampe. À tel point qu'elles ont leurs fans qui ne veulent que leur mort, qu'un journaliste s'intéresse à elles pour un reportage en se disant « non mais c'est que du flan en fait ». Et pire que tout, qu'un manager décide de vendre beaucoup de produits dérivés avec cette bande de suicidaires. Qu'elle sache jouer ou qu'elle chante est totalement accessoire. On peut se faire un max de pognon en misant sur un suicide. Les quatre femmes, coincées par le destin et un contrat abusif, vont devoir se plier à jouer vraiment de la musique. Mais à force de le faire, ne vont-elles pas finir par s'y retrouver leur raison de vivre ? C'est un peu glauque, mais c'est bourré d'humour noir, un petit joyau de méchanceté gratuite contre la société, les autres, la chance et la vie. Shinji Obara au scénario, Yukio Umino au dessin, Gogo Raven vient. Le premier tome a été sorti le mois dernier chez Bikana dans la collection Kana et le deuxième tome vient d'arriver en librairie. My Favorite Dentist is Dead, extrait de leur premier et unique album Je vis à l'intérieur, L'ennui, sur Radio FMR.
Deux, trois promesses d'une nuit, des vagues de tendresse que l'on oublie. On jure de se sentir un peu moins lâche que l'est le plus soumis des deux. Et on se perd. Satisfait, comment vous plaît, on se gagne, on se perd.
dans le supplément week-end, My Favorite Dentist is Dead. L'ennui extrait de leur premier album qui était sorti en 99, Je vis à l'intérieur. On continue dans les sorties bandes dessinées, je vous rassure, hein, c'est pas si déprimant que ça, Gogo Heaven. Finalement, c'est pas mal d'humour, assez noir et c'est assez acide, quoi. On continue dans les mangas avec Yuki Urushibara, c'est toujours dans la collection Big Kana Shekana. Mushishi, le premier tome de cette nouvelle série vient d'arriver. Mushishi, c'est une sorte de spécialiste, c'est un connaisseur, un chasseur, un exorciste, un rebouteux. Celui qui est capable de voir les esprits primitifs que les légendes populaires parlent comme des fantômes, des démons, des anges. Des êtres tellement peu évolués que nous les voyons à peine. Les mushis sont des êtres vivants les plus primitifs qui soient. Ils sont ni bons ni méchants, mais uniquement nuisibles à l'homme tout simplement parce qu'ils ne peuvent vivre ensemble sans modifier chacun leur réalité. Chacun des deux bouts de l'évolution colonise donc l'espace de l'autre et cela ne se fait pas forcément sans heurts. Ginko, donc, le héros de cette histoire, est un mushi, un expert en mushi. Il sait comment ils vivent, d'où ils viennent, ce qu'ils font et surtout les dangers qu'ils peuvent faire courir aux hommes. Ginko a alors d'arriver pour empêcher les mushi de devenir maladies mortelles, fantômes tueurs ou porteurs d'autres malheurs, pour concilier les deux. Un enfant qui peut donner vie à des idéogrammes en les dessinant de la main gauche. Un homme qui peut prédire les catastrophes dans ses rêves. Un marécage qui bouge, une fille aux cheveux verts. Ginko se trouve justement face à des phénomènes inexplicables. Mais dans le Japon médiéval, ils sont juste magiques. Orné de son éternelle cigarette, d'une chevelure étrangement pâle et semblant continuellement sur la réserve, il va affronter ces êtres comme un détective, un médecin et un exorciste. Des histoires étranges, pas vraiment horrifiques, mais dérangeante, une ambiance bizarre et inquiétante sans être effrayante. Le cocktail n'est pas évident à doser et il est pourtant réussi. C'est une série qui cartonne au Japon, qui a été saluée par la critique pour une jeune dessinatrice donc qui, depuis, a fait son trou. Yuki Urushibara, Mushishi, excusez-moi, ça va pas penser. C'est dans la collection Bikana en français chez Kana. Retour un peu plus vers l'ouest avec donc un one-shot signé Nicolas Taquillon au scénario, mais dessiné par le sud-coréen Mook. C'est dans la collection Fusion chez Soleil, dont le principe c'est on prend des scénaristes français qui ont plein de scénarios et on va démarcher des dessinateurs de la lointaine Asie. Dans une terre dévastée par la Sainte Trinité militaire NBC, les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, il reste bien peu de choses de l'humanité. En cette aube du quatrième millénaire. Une flore et une faune complètement détruites, des organismes mutants, particulièrement létaux, et surtout une organisation en bande armée, avide de sang face auxquelles les villages de paysans ont bien du mal à se défendre. Misaki, la fleur de l'homme loup, Kama, a justement été enlevée par une bande de mutants maraudeurs, et emmenée dans la grande ville Sangpok. Il faut vite que Kama la récupère avant qu'elle ne soit pervertie par le maître des illusions. Le seul compagnon d'armes qui survivra avec lui de cette allée simple pour l'enfer est son ami d'enfance, Todd. Regardant ce binôme de bouseux, la belle mercenaire Mae guide à travers les territoires des clans pour amener la caravane de la drogue qui fait se prospérer la bande du loup. Leurs intérêts peuvent-ils se croiser et comment vont-ils rencontrer au milieu de tous ces dangers ? L'univers semble riche, pas mal d'éléments sont à peine esquissés. Voilà qui fait de ce one-shot une première pierre satisfaisante pour une série. Mais hélas, le graphisme ne suit pas. À vrai dire, le dessin informatique en couleur directe, probablement sous Painter d'ailleurs, permet des fois de bien camoufler un dessin rapidement exécuté ou un manque de maîtrise du pinceau. Parfois. Parce que là, hélas, cela se voit, les personnages sans réelle expression, des défauts de proportion assez flagrants, on voit bien que ce livre n'a pas bénéficié d'un temps de production suffisant pour tenir à comparaison. Celle avec d'autres albums du même prix, bien évidemment, puisque c'est un grand format en couleur cartonné, c'est un produit de luxe dans la bande dessinée. C'est dommage pour l'histoire, Nicolas Takian n'avait pas besoin de chercher un dessinateur sud-coréen sur si ce dernier, à mon sens, n'arrive pas à honorer le niveau requis pour ce projet. La fusion n'a pas pris. Rage, un one-shot sorti dans la collection Fusion chez Soleil, scénario Nicolas Takian et dessin informatique MOOC. Christian Arleston au scénario, Philippe Pellé au dessin, c'est le cinquième tome des Forêts d'Opale, qui s'appelle 11 Racines, c'est chez Soleil. Oui, je sais, je le prends un petit peu en cours de route, mais on va vous tenter de résumer l'intrigue. Les prêtres de la lumière font régner leur religion par la terreur, le sang et la magie, utilisée à mauvais escient, bien sûr. Une religion totalement hypocrite, oui, la lumière, la pureté, la virginité, tout ça, qui permet d'asseoir indéfiniment le pontife Xarchias sur le pouvoir. Heureusement que la paladin Tara a vu l'obscurité aveuglante de cette lumière pour la fuir, et aide Darko dans sa quête. Car Darko est un jeune homme qui est l'élu, celui qui réveillera les titans, qui renverseront les prêtres qui ont osé abuser de leur héritage magique. Darko, sa sœur danseuse Slelo, son oncle barde Urfold, et donc la renégade Tara, s'enfonce dans la profonde forêt, espérant trouver le sage Shelmilis, qui pourrait aider Darko à maîtriser ses pouvoirs magiques. Les voici en quête de 11 racines, une ville mythique où ses habitants seraient tous libres. Cette ville existe-t-elle vraiment? Et échapperont-ils au terrible paladin sanguinaire de l'Inquisition de la Lumière? Ambiance épique de médiéval fantasy, manière Advanced Dungeons & Dragons, règle révisée version 2, avec quand même un sacré brin d'originalité. Scott Charleston y va de sa touche personnelle d'humour et de clin d'œil à Star Wars, en faisant intervenir un vieux maître espiègle pour révéler les pouvoirs du héros. Le graphisme est néanmoins un petit peu plus raide que dans Hell and Fust, et l'humour moins présent, puisque la série a été pensée nettement plus sombre. Pelé arrive à suivre sans souci Arleston dans ses descriptions d'un bestiaire fantastique, avec un univers cohérent et une intrigue accrocheuse. Les Forêts d'Opale est une série d'heroic fantasy qui se lit agréablement, mais qui n'est pas destinée au même public que les péripéties du monde de Troie. Les Forêts d'Opale, donc série qui en est à son cinquième tome, 11 Racines chez Soleil, scénario Christian Arleston, dessin Philippe Pelé. Je croyais la régie pub en panne, c'est loupé. Vous écoutez le supplément sur Radio FMR, émission numéro... C'est marqué en bas de la page 118. Donc... Voilà, il me tanne le cuir, ça y est, ça me relance encore. Bon d'accord, ok, on passe la pub si c'est comme ça.
J'aime prendre des douches érotiques. Alors j'utilise le gel douche Shota Yarsen. 3,70€ ce flacon de 2 litres. Le gel douche Shota Yarsen. Je ne pourrais pas m'en passer.
Extrait du précédent album de Nine Inch Nails, c'est pas le tout dernier. With Teeth, avec les dents. Every day is exactly the same. Pardon, pour une fois qu'on a du soleil, je suis pas exactement d'accord. Bonjour du sport.
Bonjour. Re.
Re, re. Alors donc, je t'ai envoyé par email la bande-annonce de Astérix et les Jeux Olympiques, donc le troisième du nom, qui a eu moult péripéties. Normalement, en temps normal, ça aurait été Gérard Jugnot et toute l'équipe du Splendid qui l'aurait réalisé à temps pour les Jeux Olympiques de Grèce. Et finalement, il sort 4 ans plus tard avec Benoît Poelvoorne. Et donc, la bande-annonce est arrivée ce matin à 11h10, exactement dans notre téléscripteur. Toi, trop tard, t'avais déjà éteint ta machine.
Bah non.
Moi, j'étais encore dedans, donc je t'ai fait suivre. Donc, si vous voulez la voir, vous tapez actuabd.com. Et on félicite quand même Didier Passamonique pour ce joli scoop, parce qu'en plus, la bande-annonce, elle tourte. Elle est énorme. Mais toi, tu t'en fiches, t'as du papier, du vrai.
Ah oui, pas mal. Aujourd'hui, il y a pas mal de papier. Ben, on va commencer. On va continuer dans les BD avec la sortie du nouveau Comic Box. Je me trompe à chaque fois.
Oui.
Non, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, quoi. Qui est donc un bimestriel, comme tu le sais, depuis le temps, je vais pas le répéter, avec toujours de la bonne matière, hein, toujours des bons trucs, partagés entre les interviews exclusives de personnages qui comptent, hein, dans le monde des comics, et des articles de fond concernant, bien entendu, les comics. Alors là, ce mois-ci.
Attention, c'est vraiment de fond, hein, c'est ultra spécialisé.
Ah ouais, non, mais c'est vachement recherché. C'est vachement intéressant.
Après, à côté, vous serez bien content de connaître l'adresse de la Comixopédia ou d'avoir en main le guide de Jean-Paul Genequin sur les comics et tout ça, hein, parce que faut suivre.
Non, faut suivre, mais c'est pas mal, quoi. C'est quand même accessible, hein, je veux dire. Avec déjà là en couverture, c'est Bien entendu,
ah,
faut surfer.
Spider-Man.
Hein. Eh ouais, Spider-Man, l'homme araignée. Avec
web.
Donc plusieurs articles, hein, sur Spider-Man. Il y a un article consacré aux amours de Spider-Man, hein, toutes les copines qu'il a eues, hein, au travers de toutes ses aventures. Hein, Mary Jane, Betty, Gwen, Felicia Hardy, toutes les autres. Et même Kitty Pryde, je ne savais même pas, quoi. Hein, tu vois,
Ouais.
Un article aussi vachement intéressant sur le débarquement de Spider-Man en France, qui date de 77, et alors par des chemins vachement
très
tortueux,
très tardif, parce qu'en fait ils ont d'abord importé les 4 Fantastiques,
ouais.
Qui fait partie du même univers. Ils se sont dit, et dans la foulée on va lancer Spider-Man et Daredevil. Et finalement, ils ont eu tellement de problèmes à imprimer les 4 Fantastiques, t'es considéré comme trop noir, etc. Ils se sont dit, bon, alors Spider-Man, on va attendre un peu. Et ça a été via le dessin animé.
Ouais, c'est pas par le dessin animé, hein, qui était sorti 10 ans auparavant aux États-Unis, et le dessin animé passe à la télé française sur la
TF1.
Une, hein, TF1,
ouais.
non, c'était la Une dans le temps, hein, ça s'appelait pas TF1, ça a donné lieu à une espèce de vague comme ça, qui a permis justement, quoi, d'imprimer des histoires originales de Spider-Man dessinées par un Français qui s'appelle de son nom Forton, qui n'est autre que le fils de Forton, le créateur des pieds nickelés et de Bibi Fricotin,
ouais.
Qui a dessiné d'autres choses. Lui, il était plutôt plus spécialisé dans le western, dans les Teddy Ted et des trucs comme ça. Et en fait, il est même, on l'a même carrément, Marvel l'a carrément expatrié aux États-Unis, hein, pour qu'il puisse dessiner d'un peu plus près, parce qu'en plus là-bas, ils hallucinaient, hein, de voir un mec qui faisait tout. Parce que bon, il faut savoir que dans les comics, c'est marqué, hein, de toute façon, quoi, sur les génériques, hein, il y a un mec qui fait les dessins, il y a un mec qui fait les couleurs, il y a un mec qui fait l'ancrage, il y a un mec qui fait les textes dans les bulles.
Il faut tenir le choc de 48 pages.
Voilà.
Et tout, hein,
alors que lui, il faisait tout. Donc là, ça les a hallucinés. Oh putain, il fait tout, génial et tout. Ça fait du pognon.
Je croyais que je l'avais, le générique de Spider-Man. Mais...
On apprend également dans cet article qu'on a décliné plein de choses de Spider-Man, qui avait les pots de moutarde Amora en 77 avec Spider-Man,
oui.
Déjà, le chocolat. Du chocolat avec Spider-Man, et qu'il y avait des parutions pour concurrencer les éditions Lug et Sage Édition, qui faisaient justement tous les bouquins de super-héros, qui étaient spécialisés dans les trucs de super-héros avec Strange, hein, que
justement.
Tout le monde connaît.
Et Strange, et c'était eux qui avaient plusieurs fois essayé de tenter justement à la fin des années 60 de sortir.
Mais ça marchait pas.
De sortir Fantasque, mais ils sont fait étrier par censurement.
Ça marchait pas. Et en fait, c'est parce que c'est sorti sur Télé 7 jours, dans des journaux comme ça, que Spider-Man a pu être connu un petit peu en France. Outre le gros truc sur Spider-Man, il y a un article très intéressant. Très intéressant sur les comics contre les fachos.
Ah, ça, c'est le générique américain.
Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catch his feet, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man.
C'est là où on reconnaît vraiment la qualité d'orchestration. C'est pour ça que c'était une chanson qui est restée. Il y a un swing énorme derrière.
Alors, outre Spider-Man, donc, dans le comic box qui occupe la première partie, il y a un article très intéressant de fond, les comics debout contre les fachos, parce que bon, au départ, l'intelligentsia française, c'était un petit peu ligué contre les comics qui étaient accusés d'être ultra conservateurs, même fachos, hein.
C'est clair
Captain
que certains.
America, tous ces héros qui étaient un petit peu vraiment nationalistes à fond les manettes, alors qu'en fait, la majeure partie des comics, de par l'identité de ceux qui avaient créé les comics, c'était des juifs, quoi. Donc, ils pouvaient pas être vraiment fachos, ils pouvaient pas être tellement nazis.
Oui, au cas où vous le sauriez.
Du tout,
le sauriez pas, si Superman est encore Goy, c'est que parce qu'il avait que deux pères juifs, il avait pas de maman derrière.
Will Eisner et tout ça, ok.
Oui, tout à fait.
Étaient vraiment plutôt. Ça nous raconte un petit peu l'histoire à travers les différents comics qui sont sortis depuis l'âge d'or, depuis le début, c'est-à-dire les années 40 jusqu'à pratiquement nos jours, le combat donc de l'intolérance, le combat contre le nazisme, contre le fascisme, via des histoires vraiment très très bien torchées. Il y a l'exemple d'une histoire où t'as la foule qui est là, t'as un défilé, tout le monde salue sauf un mec et tout. Alors la foule commence à lyncher le mec pour se rendre compte, et ça c'est la chute de l'histoire, que le mec en fait c'était un vétéran de la guerre qui était aveugle, donc il pouvait pas voir, quoi. Enfin des trucs comme ça. Également, on nous raconte Spawn qui descend. C'était beaucoup d'histoires contre le clan, le Ku Klux Klan, qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 30, 40 et 50.
Puisque Spawn, à l'origine, est un ancien soldat noir. Donc il a tout ça, il a toute la part de passé qui remonte. C'est clair que là-dessus, voilà quoi.
Là ils se sont défoulés. Todd McFarlane s'est vraiment défoulé à fond les manettes et tout. Enfin bon, et ça a même valu d'ailleurs dans l'Arkansas toute une cabale contre McFarlane, contre Spawn et tout. Il y a une nana black qui a dit ouais c'est trop violent, c'est pas possible et tout, qui a décidé d'acheter tous les bouquins de telle manière à ce que les gosses puissent pas les acheter. Donc elle est dans tous les magasins.
Oui, c'est une méthode de protestation assez courante aux États-Unis. À savoir aussi que les ligues de vertu chrétiennes, républicaines, etc., s'attaquent énormément aux magasins de comics.
Mais pas que républicaines, les démocrates également. Il n'y a pas tellement de différence.
Mais ils s'attaquent énormément aux magasins de comics aux États-Unis, à tel point que dans certains États américains, ils ont suspendu de la liberté de parole le comics, puisque c'est de la fiction et que cela n'entre pas dans les bonnes mœurs. Donc c'est un combat permanent que mène d'ailleurs le CLBDF, qui met régulièrement aux enchères des planches originales pour soutenir justement tous ces libraires qui sont attaqués.
Voilà, sinon il y a toujours les interviews qui sont vraiment très très intéressantes, qui concernent les mecs qui comptent, les dessinateurs, les scénaristes. Alors là dans ce numéro on a Marc Silvestri qui est le co-créateur de Top Cow, c'est pas n'importe qui.
Voilà, qui est l'un des très grands labels qui est en fait un peu, je vais dire, dissident de Marvel et qui a renouvelé au dans les années 90.
Qui est revenu, qui a été racheté par Marvel. Enfin bon, c'est une espèce de collaboration on va dire, ça peut être intéressant. Il y a Steve McNiven également, il y a Greg Pak, il y a Guy Davis également, qui passe en interview. Il y a bien entendu la bande dessinée inédite en 24 pages qui est pas mal, là c'est The Authority, et les petites rubriques qui sont vachement rigolotes, alors il y a également un coup de projo sur Rackham, la maison d'édition française
qui édite entre autres 300 et
les Frank Miller en général.
Pas tous, attention, mais
en général,
ouais, mais on y trouve notamment Sin City, l'intégrale qui a été rééditée pour l'occasion de la sortie du film.
Et également un article qui concerne, c'est une rubrique qu'on a dans chaque numéro, le vilain oublié. Et alors là, le vilain oublié de ce mois-ci, c'est qui ? C'est Sarko. Sarko. Et qui est Sarko ? Et Sarko, en fait, c'est un petit peu l'alter ego de Ming pour Flash Gordon. Mais à l'époque où Alex Raymond commence à dessiner Flash Flash Gordon, eh bien plein d'autres se disent bon bah on va copier, pas de problème, il va y avoir plein de héros comme ça qui vont partir dans une fusée, découvrir d'autres mondes et qui vont tomber sur une planète où il y a un méchant qui voit pas d'un bon œil les nouveaux arrivants. Et là Flint Baker, c'est son nom, bah arrive justement sur la planète Mars, et sur la planète Mars, eh bien il se rend compte qu'il y a une la patronne de la planète Mars qui est vachement mignonne, super et tout. Alors bien entendu, c'est comme dans Flash Gordon, c'est à Flash Gordon avec la journaliste, à Flint Baker, il a également une journaliste qui est blonde.
L'essaye de Quick féminine.
La martienne en chef, elle est brune, bien entendu, mais du côté de la face obscure, du côté obscur de Mars, c'est-à-dire la face qui n'est jamais éclairée, ce qui est complètement idiot, hein, parce que Mars fait sa révolution, donc il y a jamais un côté qui reste tout le temps obscur, hein, c'est une connerie, mais enfin bon, ça c'est une liberté scénaristique, on va dire. Il y a un méchant qui s'appelle Sarko, et qui sait, en fait, c'est un des survivants de la première expédition qui a eu lieu sur Mars, et que Flint Baker est chargé de retrouver 7 ans après, quoi. Et Sarko donc a décidé de mettre sous son joug les Martiens et tous les nouveaux arrivants pour conquérir la planète et pour être le chef de la planète. Mais Flint Baker va remédier à ça, hein, Sarko, le maître du côté obscur, c'est paru dans les années 40 quand même, hein, donc il y a quand même des sacrées recherches qui sont faites, ils sont quand même vachement pointus à ce niveau-là.
Surtout que c'est pas eux qui l'ont retrouvé là-dessus, je crois que justement, j'en parlais tout à l'heure, je crois que c'est Genkin qui avait soufflé l'idée à un des copains d'ActuaBD.
Enfin,
donc voilà, mais par contre, je le prends quand même.
J'ai pas terminé. Désolé. Sinon, nouveau, pas vraiment nouveau. Moi, c'est la première fois que je tombe dessus. Faut dire que dans la jungle, hein, des trucs qui sortent en librairie, c'est pas évident, hein, de faire son choix.
Surtout que c'est pas en librairie, c'est en kiosque. Et en France, on est le pays où sort le plus de magazines.
Et là, faut chercher.
Plus de nouveaux titres.
Moi, des fois, je cherche les
trucs en porcelaine.
Les mensuels auxquels je suis habitué. Que je cherche, que je prends chaque mois, et des fois même j'ai du mal, tu vois. Et là, celui-là, c'est par un biais un petit peu détourné que j'ai su que ça existait. C'est le numéro 5.
Tu cherchais, je couds moi-même la dentelle, non?
Hein, c'est le numéro 5, enfin pas exactement, il y avait un numéro 0, donc c'est le numéro 4. Ça s'appelle Générique et c'est le mensuel des séries TV. Alors, je vous avais parlé d'épisodes, c'était un trimestriel, la nouvelle livraison d'Alain Carazé, hein, qui est un trimestriel. Alors, qui a une particularité, on ne peut pas s'abonner, on ne peut que l'acheter en kiosque. Il n'y a pas d'abonnement possible, il n'y a pas de version, pour l'instant, il n'y a pas de version numérique, c'est-à-dire sur le net.
Ouais.
Hein, épisode, c'est uniquement en kiosque. Hein, donc, allez-y, c'est pas mal. Les articles sont vraiment très, très intéressants, un petit peu fouillés. C'est également le cas dans Générique, qui fait un petit peu plus dans le général, c'est-à-dire c'est un petit peu plus lisible pour le néophyte, pour le type qui débarque ou la nana qui débarque et qui connaît pas trop mais qui a envie de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde des séries, avec dans ce numéro un gros article sur les rapports de Spielberg avec la télé. Il faut savoir que Spielberg a commencé par la télé, ses premières réalisations, dont le troisième ou le quatrième épisode de Columbo, ça on le sait pas, en 71, avant de faire Duel, il avait déjà réalisé un Columbo, après il s'y est remis et on le voit encore à l'antenne, hein, avec les 4400, avec côté producteur, Into the West, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Il y a un article aussi un scénariste qui s'appelle Mark Witten, qui est pas trop connu, mais qui a travaillé pour Homicide, qui a travaillé pour New York District et plein d'autres séries, c'est vachement intéressant. Ainsi que sur Bruno Gassiot et Gilles Gallu, hein, qui sont en train de nous pondre.
Bruno Gassiot est devenu le directeur de la fiction à Canal.
Voilà, c'est ça.
Pour ça qu'il a abandonné de plus en plus ses guignols depuis un an.
Un dossier très intéressant, en plusieurs articles, 7 articles consacrés à l'étrange au quotidien. Alors bien entendu, c'est du Twin Peaks de plein d'autres choses. Un gros plan là, l'article m'a un petit peu déçu sur la drogue dans les séries. Là, c'est un petit peu bateau quand même. Hein. Il faut dire qu'ils ont pas trop fouillé le truc. C'est un petit peu dommage. Et toute une partie qui concerne les critiques des DVD qui vont sortir des séries, ainsi que la rubrique Point de vue en fin de magazine. avec une partie très intéressante. Ça n'a jamais été fait dans un autre magazine hein, qui parle de séries télé, qui concerne la musique dans les séries justement. Et là, ils sont attachés à décrypter un petit peu, à faire le point de toutes les musiques qu'il y avait dans la série Dawson. Et là, on tape dans du lourd hein, parce que c'est vraiment
Truc pour ados et tout. C'est le top 50, enfin le top 10.
Ouais, enfin top 10, voilà. Top 10 américain quoi. Donc,
c'est un airplay assez costaud quoi.
Ouais. Et plein d'autres petites rubriques comme ça qui sont très 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 intéressantes. Un générique, hein, je vous le conseille, c'est pas mal. C'est un peu cher quand même, un 4,90 quoi. Mais par contre, vous avez pas des pubs à la con de merde. Y a pas de pub dans ce truc. Si, y en a quelques quoi qui concernent vraiment des séries qui vont sortir ou des DVD à sortir. Mais vraiment, c'est pratiquement que du rédactionnel, donc c'est vachement intéressant quoi. Générique donc mensuel des séries télé. On passe maintenant au ciné en direct.
Alors dans ce cas-là, le programme grand écran de la Cinémathèque vous est présenté par Du Sport en Dolby Mono Surround.
Dans la série Made in London, hein, cette thématique qui a lieu tout le mois de juin, c'est à la Cinémathèque, parallèlement à la programmation classique hein, de la Cinémathèque. Plein de films donc, déjà aujourd'hui. Et là, bon, c'est quand même un événement parce que, eh bien, il s'agit d'un très vieux Alfred Hitchcock, période anglaise. On l'a dit hier hein, sur cette même antenne. Hein, c'était Pitet qui en parlait avec Gors, d'ailleurs.
Jean-Paul Gors, c'est l'ancien conservateur de la Cinémathèque.
La période anglaise de Hitchcock, qui est anglais, il a fait pas mal de films, dont des films muets. Puis les films parlants anglais qu'il a refait retourner aux États-Unis, hein, Le Crime était presque parfait, on est l'exemple le plus flagrant. Et là, bien, c'est un film assez rare, hein, c'est un film muet de 1926 qui s'appelle L'Éventreur, les cheveux d'or de Alfred Hitchcock de 1926, donc qui sera programmé ce soir à 20h30, accompagné au piano par Raphaël Hausson en direct et précédé dans le cadre du Marathon des mots d'une lecture des entretiens Hitchcock-Truffaut par Charlotte Rampling quand même. C'est à 20h30 donc c'est ce soir hein, à ne pas louper quand même hein, si vous êtes fanat de Hitchcock. Découvrir comme ça les muets de Hitchcock, ça vaut le coup hein. Il y avait eu une thématique Hitchcock muet dans le ciné-club de la 3 il y a très 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 longtemps hein,
c'était assez énorme hein.
C'était encore Claude Jean-Philippe quoi, tu vois, à l'époque quoi, donc ça date hein, c'était pas Patrick Brion, c'était encore l'assistant de Claude Jean-Philippe. C'est pas lui qui faisait le commentaire.
La voix off.
Voilà, non. Demain, qu'est-ce qu'on a ? Demain, on a Blow Up hein, qui recommence. D'ailleurs, à la fin de cette rubrique, on écoutera le deuxième morceau, le morceau original des Yardbirds.
On
n'avait pas la semaine dernière. Je vous avais passé la version qu'il y a dans le film. Là, on va passer le morceau original, hein, c'est-à-dire le morceau, la reprise hein, qu'on ont fait les Yardbirds et qu'ils ont transformé en Stroll On, le morceau que vous avez dans Blow Up. Blow Up, c'est demain donc à 17h30 et plus tard à 18h30 vous avez London qui est la première partie entre guillemets quoi de cette espèce de mi-docu mi-fiction réalisé par Patrick Kehler dont on voit la suite Robinson dans l'espace mercredi prochain à 18h30 donc Made in London c'est mardi prochain à 18h30 et c'est suivi à 20h30 d'un film dont j'ai parlé la semaine dernière et ça qu'il faut absolument le voir d'ailleurs Jean-Paul Gors en a parlé un petit peu hier là j'étais vachement content c'est Passeport pour Pimlico le film de Henry Cornelius à 20h30 mardi prochain. Mercredi donc, on a à nouveau Passeport pour Pimlico à 16h30, suivi de Robinson dans l'espace de la suite de London, enfin la suite soi-disant hein, de Patrick Keller à 18h30. À 20h30, il n'y a pas de Made in London, mais il y a quand même un film que j'estime qu'il faut aller voir, c'est un film d'Eric von Stroheim, il n'a pas fait des masses, mais ouais, c'est vraiment des tueries. La symphonie nuptiale, qui est également accompagnée par le même pianiste, hein, puisque c'est un film muet, accompagné au piano donc par Raphaël Hausson. Jeudi prochain, encore Passeport pour Pimlico à 18h30, suivi à 20h30 d'un film de Karel Reis qui s'appelle Morgan Fou à Lier, Morgan a Suitable Case for Treatment, avec quand même le casting qui tue, quoi. C'est un film de 65, David Warner, Vanessa Redgrave, Irene Handel et Robert Stevens. Robert Stevens qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la programmation, vu que c'est lui le Sherlock Holmes de la vie privée de Sherlock Holmes.
Oui, c'est lui où il est obligé de simuler une relation homosexuelle et où il se prend le bec avec son frère pour une histoire de secret d'État.
C'est surtout un film de Billy Wilder et c'est vraiment un film à voir, hein, vraiment à voir. Hein. Même pour les Holmesfield à fond les manettes, même eux considèrent que c'est un film réussi. Hein. Et pourtant, le mythe de Sherlock Holmes en prend un petit peu plein dans la gueule, quoi, faut dire, dans ce film. Et ça, c'est Wilder qui l'a voulu tel. Jeudi, donc, Passeport Pulnico et Morgan Fou à Lier, donc de Karel Reis. Morgan Fou à Lier qu'on retrouve vendredi prochain à 18h30, suivi à 20h30 du film dont Philippe Huitet nous abreuve. À chaque fois qu'il peut le placer, il le place. Le fameux Jubilé de Derek Jarman, le film punk, comme ils disent. Il y en a d'autres des films punk. Sans parler des punks, sans qu'il y ait des punks dedans, il y a beaucoup de films punk quand même. Hein. Et ça, c'est vraiment un film avec des punks à Londres en 77. Ça vaut le coup. C'est vraiment très très bien.
Donc, amateur de vomi, c'est le moment idéal.
Ouais, il n'y a pas que du vomi. Hein. Et donc, La vie privée de Sherlock Holmes est prévue samedi prochain à 20h30 également durant la semaine suivante. Allez, on se fait un petit peu les Yardbirds.
Allons-y.
Voilà.
13h01 dans le supplément week-end sur Radio FMR. Vous avez entendu passer la cloche pendant, sur les Yardbirds. The train kept rolling. Keep the rolling.
Et bien, on était juste avant dans la programmation Made in London de la Cinémathèque, et bien, c'est vraiment un hasard, hein, parce que bon, bah, j'avais acheté le bouquin un petit peu avant sans penser à autre chose. Je vous parlais un petit peu d'un livre qui s'appelle Les Bas-fonds de Londres, c'est le titre français, London Underground. London Underground, c'est pas à propos du métro de Londres.
C'est le
sous-titre Crime et prostitution sous le règne de Victoria. Avec un bouquin très très complet, un gros bouquin quand même, hein, c'est écrit assez petit, il fait bien 500 pages, qui nous raconte tout ce qui se passait bien durant le siècle de Victoria, à savoir ça commence aux alentours de 1820 jusqu'à la fin du siècle, séparé en différentes parties. Ça commence par une mise en position, ça explique un petit peu ce qu'était l'Angleterre à cette époque-là, à mi-siècle, puis eh bien les différents on pose un petit peu les jalons avec les frontières de la pègre, à savoir où est-ce que la pègre opérait, dans quel quartier, pas seulement à Londres mais un petit peu partout en Angleterre, et ensuite eh bien on détaille un petit peu qui étaient les différents, on va dire bas de gamme, les personnes bas de gamme qui peuplaient ce joyeux pays qu'était l'Angleterre à cette époque-là. L'Angleterre qui, il faut le rappeler, au siècle dernier était le pays le plus riche du monde, le pays le plus puissant du monde au vu de ses colonies. C'était le pays qui dominait pratiquement le monde, hein, de toute façon. Alors, différents chapitres qui concernent toute la low class, hein, qui faisait partie du peuple anglais, les nomades. Ensuite, on a, c'est-à-dire ceux qui se déplaçaient, quoi, pour travailler, pour suivre les différents chantiers,
les journaliers, quoi.
Voilà, hein, on les retrouve d'ailleurs, on les retrouve depuis la fin des années 80 avec les ravers qu'on appelle les travelers, quoi. Hein, c'est un petit peu le même type, sauf que là, ils sont un petit peu regroupés. Les nomades, ça ne concerne pas que les gitans, hein, il y a également une caste. Il y a également à la mi-siècle, c'est-à-dire en 1845-1850, un exode qui est venu d'Irlande après l'épisode des patates qui a fait que 4 millions d'Irlandais ont immigré en Angleterre, plus encore environ 1 million, 2 millions qui sont partis aux États-Unis, ceux qui étaient les plus fortunés pour la plupart. Les citadelles de la pègre, ensuite on a les pickpockets, des trousseurs et virtuoses. On a les cambrioleurs et les receleurs, on a les mendiants, on a alors toutes les techniques qui sont bien décrites, les filous, les truqueurs, les refileurs de fausses monnaies, la pègre sportive, dont je vais vous lire un extrait d'ailleurs, et la prostitution, bien entendu, hein, qui est un gros chapitre, hein, qui doit faire dans les 70 pages quand même. La plupart des chapitres font une cinquantaine de pages. Là, je vais vous lire le petit extrait à propos de la boxe, parce que c'est vraiment révélateur. Il faut savoir que la boxe a été codifiée par le marquis de Queensberry aux alentours de 1850-1860, parce que justement, eh bien, avant, il y avait déjà et aux États-Unis et en Angleterre des combats de boxe, hein, ça date d'il y a très très longtemps, hein. On se rappelle que c'était déjà une discipline olympique lors des Jeux Olympiques antiques, hein, ça s'appelait le pancras à l'époque, et là, eh bien, avant que le marquis de Queensberry se mette à codifier la boxe avec des glands, il y avait la boxe à main nue, hein. Alors je vous lis un petit peu quelques extraits donc de ce qui se passait. La longueur du combat ne permettait pas à un boxeur à point nu, qui n'était d'ailleurs pas entraîné pour cela, à frapper souvent de toute sa force. Durant les derniers rounds d'un match, les mains des protagonistes étaient généralement en piteux état. Les experts s'attendaient à des coups brefs et durs, entaillant la lèvre ou la joue et décorant les côtes de douloureuses contusions. Ces coups étaient administrés à la verticale sans être accompagnés du poids du corps, car cogner brisait les jointures des doigts et luxait les avant-bras. De plus, dès qu'ils enflaient, les poings durcis par le pickle, c'était un espèce d'onguent qui se mettait pour durcir la peau et pour que dans le cas des raflures, eh bien, ça cicatrise un petit peu plus vite. Les poings durcis par le pickle perdaient le précieux pouvoir d'entailler. Entre combattants de premier ordre, les chances d'une décision rapide sont négligeables. Même le fait d'envoyer au tapis son adversaire avant qu'il ne soit sévèrement abîmé, bien que cela plût à la foule et aux parieurs des deux bords, ne signifiait pas grand-chose. À moins que ses soigneurs fussent incapables de le ranimer, cela tranchait en généralement le round, mais pas le match. Les fervents de la boxe raffolaient de longues exhibitions d'adresse, de rapidité, d'effusion de sang, de courage agressif malgré la souffrance. Or, les règles et les conventions du noble art étaient admirablement destinées à mettre tout cela en relief. 9 victoires sur 10 dans un combat sans tricherie s'obtenaient grâce à l'épuisement total du perdant. Un professionnel se devait en tout premier lieu à ses supporters et, à l'instar du coq de combat auquel on le comparait souvent, sa vertu indispensable était le jusqu'au boutisme. Lorsque leur homme était aveugle et sourd de sang et de contusion, ses mains et ses poignets en capillotade gonflés comme des éponges, à demi-mort de fatigue et de meurtrissure, sans le moindre espoir de continuer à tituber jusqu'à ce que son adversaire, aussi éprouvé que lui, s'écroule ou qu'il commette dans son abrutissement une faute qui le disqualifierait, alors, mais alors seulement, ses soigneurs lançaient leur castor en l'air. Et l'équivalent de jeter l'éponge, hein, parce qu'à l'époque, les soigneurs, ils avaient un chapeau en peau de castor, et donc c'est pour ça que balançaient le chapeau pour signifier que c'était la fin du combat. Un round qui pouvait durer quelques instants à plus d'un quart d'heure s'achevait d'ordinaire par un corps à corps et une chute. Il était interdit aux boxeurs professionnels de se servir de ses jambes contre son adversaire, mais il pouvait l'étreindre au-dessus de la ceinture et lutter avec lui pour le faire tomber, l'homme ayant le dessous, perdant normalement le round. Alors tu vois, il y avait déjà des règles, mais c'était pas encore codifié, hein. C'était plein de choses comme ça. Alors bon, il y avait également dans la pègre sportive, il y a les combats de chiens, les combats de coqs, également les chiens contre les rats, quoi, parce que à l'époque il y avait beaucoup de rats et donc il y avait des récompenses qui étaient offertes pour la capture des rats, hein. C'était tout un business. Et ensuite, à l'instar de ce qu'on faisait pour les combats de coqs, c'est-à-dire dans un ring vachement réduit, hein, ou les combats de chiens, hein, on parle d'ailleurs des bull terriers de Staffordshire, hein, qui sont devenus les pitbulls. On mettait une quinzaine de rats dans le ring avec un chien qui était chargé de les bouffer. Les paris portaient sur le temps qu'allait mettre le chien pour les bouffer. Pour les,
s'il ne se faisait pas bouffer
descendre.
Avant quand même. Hein.
Ah non, généralement le chien gagnait toujours, mais c'était la rapidité avec laquelle le chien arrivait à auxir les rats qui étaient pris en compte pour l'établissement des paris. Bref, un bouquin très 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 intéressant paru dans une nouvelle collection dirigée par Jean-Claude Zilberstein, qui nous a fait 10-18, hein, oui. Entre autres, quoi, qui s'appelle Texto. Et ce ne sont que des livres écrits par des historiens. Là, c'est un livre écrit par Kello Chesney, qui est un historien britannique qui a également écrit sur la guerre de Crimée. Et il y a d'autres livres qui ont l'air vraiment très très intéressants, mais sur des trucs bien bien spécifiques quand même. Des hommes ordinaires, hein, qui parlent bien de ces Polonais qui ont été enrôlés durant la Seconde Guerre mondiale et par les SS et qui donc ont exterminé des villages entiers.
Des malgré nous.
Les malgré nous, c'était les mecs qui étaient emmenés, ça c'était les Alsaciens qui étaient emmenés de force parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Enfin, il y en a qui ont choisi quand même, hein. Faut quand même pas déconner. Il y a un livre qui s'appelle Les chemins de la peste, l'histoire de la peste au travers les âges, la chute de Constantinople également. Il y a également Histoire de France, il y a le procès des Templiers, Jugement dernier, les procès pétins de Nuremberg à Eichmann, une vie de Sénèque et les fantômes du roi Léopold ou tout ce qui se passait.
En Belgique, hein.
Non, pas en Belgique, en Afrique.
En Afrique, oui. Afrique.
Et bon,
dans sa propriété privée, oui.
Hein, torture, mutilation, esclavage, entre 1877 et 1908. Il faut savoir que la Belgique est également un des grands États colonialistes, surtout en Afrique. D'ailleurs, Léopoldville, je crois, c'est devenu.
C'est le Congo,
Brazzaville. Brazzaville, quoi. Congo, Brazzaville et tout ça, quoi.
Non, ça, c'était la partie française.
Ah ouais, peut-être. Enfin, bref. Voilà, tout ça, donc, dans cet excellent bouquin, hein, qui s'appelle Les bas-fonds de Londres, London Underground, crime et prostitution sous le règne de Victoria.
T'as du curry, toi, t'as pas peur. Hein.
Ah non. 13h12, c'est Radio FMR toujours, avec une petite sélection là de films indiens. Eh ouais. Et je vous dirai après où les trouver, parce que bon, c'est pas mal, ça vaut le coup. Et en plus, on parle de TVA sociale en ce moment, quoi. Ça, c'est des films. Ils payent pas la TVA, cela, t'en fais pas. Avec tout d'abord Mission Cachemire. Alors c'est du Bollywood dont on parle, quoi. Mais du Bollywood de qualité. Hein. On a souvent on a une image un petit peu dépréciée comme ça de Bollywood par rapport aux films d'art et d'essai de Satyajit Ray et d'autres réalisateurs indiens qui font justement pas du Bollywood. Il y a pas de chant dedans, il y a que dalle. Là, c'est du pur et dur. Ça vaut le coup. Tout d'abord, un film d'action qui s'appelle Mission Cachemire. Réalisé par Vinod Chopra. Alors là, il faut préciser qu'il y a des constantes dans les films de Bollywood. Ce sont toujours des films qui sont très très longs. Généralement, 2h30 est un minimum pour un bon film de Bollywood.
C'est plus proche de 3h, 4h.
Hein. Voilà, 3h, c'est la moyenne. Il y a toujours un entracte au milieu du film, hein, parce qu'il faut savoir que là-bas...
Cuire un curry, ça prend 2h.
En Inde, quand il va au cinéma, il y a l'entracte, les gens sortent, vont bouffer, clac, et ensuite retourne dans la salle, hein, y a pas de nana avec ice cream, popcorn, non, ils vont carrément manger. Y a toujours, bien sûr, les chansons, les parties comédie musicale qui sont la condition sine qua non d'un bon film, de toute façon. Les chansons qui ont toujours rapport avec l'histoire. Alors il y a toujours l'histoire d'amour, il y a la chanson d'amour entre les deux protagonistes, l'homme et la femme, hein, qui s'aiment, de toute façon, le duo, quoi. Ça c'est une caractéristique des parties musicales. Il y a toujours pas mal de chansons. Alors selon que le film a une histoire plus ou moins intéressante, il y a plus ou moins de chansons, sinon ils s'emmerdent pas, hein, immeubles, hein, de toute façon, avec pas mal de chansons. Dans ceux-là, il n'y a pas trop de chansons. Dans Mission Cachemire, il y en a quand même pas mal tout au long du film. Mission Cachemire, c'est l'histoire. Le héros dans ce film est en fait un enfant qui a été recueilli par un ex-chef des commandos qui est devenu chef de la police, mais qui, quand il était chef de commando, eh bien, a décimé toute sa famille. Seulement lui, il ne le sait pas. Il a grandi donc dans cette famille, et c'est quand il va apprendre que son père en fait est celui qui a assassiné ses parents ainsi que tous les membres de son village, qu'il va décider de se venger. Parallèlement à ça, il y a bien entendu une histoire d'amour avec une fille qui n'est autre qu'une des survivantes également de ce village, mais il s'était perdu de vue, bien entendu. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle, eh bien, elle devient assistante dans une chaîne de télé, et donc de par là même, eh bien, ça permet d'introduire pas mal de scènes de comédie musicale, vu que c'est une chaîne de télé qui passe énormément de trucs chantiers. Attention, c'est très très moderne, hein, au niveau de la musique, hein, c'est-à-dire que on a vraiment les thèmes traditionnels indiens, mais assaisonné à une sonne avec des instruments modernes. Il y a un morceau avec guitare, basse, batterie, les mecs bien rock et tout.
Oui, ça envoie en général. Hein.
Ça envoie bien, de toute façon. Il y a un truc. Le héros, il va essayer de se venger de son père, bien entendu. Et pour cela, il va fréquenter un petit peu les terroristes. Il va passer, comme ça se passe au Cachemire. Le Cachemire, c'est juste à côté, si vous êtes géographe, du Pakistan.
Du Pakistan, oui. C'est une zone qui est contestée des deux.
Népal, hein. Voilà. C'est là que ça pète tout le temps. Pratiquement, et donc il va contacter les terroristes qui sont réfugiés au Pakistan, dont un type qui, on le voit un petit peu dans la pénombre et tout, faut dire qu'il a le keffieh, il a la barbe et tout, s'y méprendre, on dirait Oussama, il n'y a pas de problème, et ça a été voulu de toute façon, enfin bon, beaucoup de clins d'œil de toute façon. Il y a toujours beaucoup d'humour, hein, même s'il est sous-jacent, il y a toujours beaucoup d'humour. Attention, c'est quand même un très bon film d'action, hein, Mission Cachemire. D'ailleurs, sur la jaquette, hein, il y a les traditionnels critiques qui permettent de vendre un petit peu le film. Elle a critique de journaliste américain. Si Mission Cachemire avait été un film américain, il aurait reçu l'Oscar du meilleur film, les acteurs principaux, de la meilleure musique et celui des effets spéciaux. Faut dire que quand on voit ce film, on se dit vraiment, ils savent vraiment faire du cinéma. Il y a pas de problème. Et il y a pas mal de cinéastes européens ou américains qui devraient regarder ce genre de film.
L'Inde est le pays qui produit le plus de films.
de toute façon,
qui a détrôné l'Égypte dans les années 70, si je me souviens bien, mais c'est le pays qui a toujours fait le plus de films. L'Égypte est tombée bien bas, malheureusement.
Ils ont la pratique. Parlons à présent d'un autre film qui, là, vraiment, est un film magnifique. Alors, Mission Cachemire doit faire dans les 3 heures. Lagan, qui est un petit peu connu en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il a été présenté au Festival de Cannes il y a quelques années. Parce que c'est... c'est un film Bollywood, mais qui est destiné à un public international et qui essaye de convertir un petit peu les occidentaux que nous sommes à ce qu'est le cinéma de Bollywood, c'est-à-dire avec bien entendu toujours les parties comédies musicales, quoique dans Lagan il n'est pas tellement le film.
Les couleurs saturées, les grands moments langoureux et tout ça.
Ouais, il y en a pas tant que ça. Il faut dire que dans ce film, la musique est plus traditionnelle, on va dire. C'est vraiment de la musique traditionnelle. Il y a le chant à la gloire de Krishna et tout. Lors de la fête du temple et tout, il y a le duo amoureux entre les trois personnages, parce qu'il y a trois personnages en fait, un mec, deux nanas, d'ailleurs, tu le vois sur la pochette. Et l'argument est vraiment très très fort, parce que ça raconte une histoire qui n'a pas vraiment eu lieu, mais qui aurait pu avoir lieu à la fin du siècle dernier, donc l'Inde est sous la domination britannique. Ça raconte l'histoire d'un village et de toute une région qui est sous une domination anglaise. Et comme les paysans ont un petit peu de mal, vu que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas plu, pour faire cultiver le riz et toutes les choses dont ils mangent, parce que ça se passe dans un pays qui est végétarien, ils mangent pas de viande. C'est bien précisé. De toute façon, il y a quelques petites réflexions à ce sujet-là. Et ça raconte l'histoire donc du héros principal qui s'appelle Bhuvan dans le film et qui va tenir tête au lieutenant Russell, qui est le chef de la province qui régit donc la province en tant que
gouverneur, on va dire,
et qui lui tient tête donc. Et le lieutenant lui propose la chose suivante, qu'il ne payera pas la taxe auxquelles sont assujettis tous les villages qui doivent donc prélever une part de leur récolte et la donner aux colonisateurs comme taxe. La taxe s'appelle Lagan, c'est pour ça que c'est le titre du film. Lui dit, ok, il n'y a pas de problème, parce que bon, ils avaient vu qu'ils jouaient au cricket, les Anglais, quoi. Et puis le type se fout de leur gueule, Bhuvan se fout de leur gueule. C'est quoi ce jeu d'idiot? Nous, on y jouait, c'est un jeu indien qui s'appelle le Gilli Danda, c'est la même chose et tout. On dit, ah bon, hein, c'est comme ça et tout. Bon, bah ok, je te prends au mot, il n'y a pas de problème. Tu formes une équipe et tout, on fait un match de cricket. Et si jamais vous gagnez, je vous exempte de Lagan pendant 3 ans, pas seulement ton village, mais toute la province, toute la région. Et l'autre il dit ah ouais pas de problème, super et tout, alors qu'il a jamais vu, il sait pas ce que c'est le cricket, il a jamais vu ça de sa vie. Et donc le film raconte l'apprentissage du cricket. Pour cela il va se faire aider par une Anglaise qui n'est autre que la sœur du lieutenant Russell, fraîchement débarquée de Londres, mais qui tombe amoureuse du beau Bhuvan.
Forcément,
et qui donc en cachette va aller lui expliquer quelles sont les règles, va commencer à lui apprendre comment ça se passe le cricket. Et donc ça nous raconte toute l'histoire, comment ils montent l'équipe, comment ils s'entraînent et tout. Et ensuite bien sûr le point d'orgue final, ça dure 3/4 d'heure quand même, le fameux match de cricket. Le film est vachement intéressant de ce côté là parce que pour nous continentaux habitués au football et autres jeux d'équipe, c'est devenu une tradition de ne rien comprendre au jeu de cricket. On commence à comprendre un petit peu en voyant ce film quelles sont les règles du cricket, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il court dans tous les sens, pourquoi il y a deux batteurs de chaque côté, pourquoi il y a ces trois bâtons avec un espèce de truc posé dessus. Ça nous explique quand même pas mal de choses. Bon, ça nous explique pas tout, c'est-à-dire la manière de compter les points, tout le bordel. Là, ça reste encore un petit peu vague, mais c'est quand même vachement explicatif. Alors, bien sûr, avec le trio amoureux. Enfin bon, c'est absolument magnifique. C'est un film qui n'a pas été fait uniquement pour la production et pour la diffusion en Inde. C'est un film qui a été fait pour l'international, coproduit par Columbia TriStar. Donc c'est du gros, comme le Mission Cachemire d'ailleurs. Et c'est vraiment un film magnifique. De toute façon, un film donc de Sutosh Gowarinker, Lagan, un film vraiment très bien. Et ensuite là, le dernier, alors là c'est vraiment pour la bonne bouche, parce que bon, je me suis fait conseiller par le type qui vendait ça dans la rue, là, la bière.
je crois voir où, à côté d'une station de métro.
À côté d'une station de métro, hein, mais ça vaut vraiment
le coup, très
parce que bon, bah, c'est pas cher, hein, je veux dire. Ouais. Hein, le DVD à 3-4 euros, ça vaut le coup, hein, vous payez pas de TVA, c'est sûr. Hein. Et là, c'est vraiment, je lui ai demandé s'il avait un bon film d'action et tout, et puis il m'a dit, ça c'est très bien, hein. Ça s'appelle Family, c'est un film de Rajkumar Santoshi, avec d'ailleurs comme héros principal, au bout d'une heure seulement, hein, eh bien, le même héros que dans Cachemire, Mission Cachemire, lui là, que tu vois là au milieu, quoi, bah, t'as le même là-dedans, quoi, tu vois. Un petit peu moins bouffi, quoi, mais pas mal quand même. Et là, ça raconte eh bien l'histoire de deux familles. Hein. Le thème en fait de ce film, c'est la famille. La famille, c'est sacré, les traditions, là, tout le truc et tout. Dans le trip indien du terme, hein. C'est-à-dire bon, bah il y a plein de traditions comme ça qui nous paraissent peut-être un petit peu rigolotes, mais enfin bon, c'est respectable quand même. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors, une famille, c'est la famille. Ça commence très trash, hein, avec un type dans une boîte de nuit qui voit que son ex-petite copine drague avec un autre mec et tout. Il arrive, prend une bouteille, bam, il fracasse la bouteille sur le crâne, t'as du sang qui coule, le mec il crève et tout. Enfin, bien trash, tu
ouais,
vois.
Ça envoie, quoi.
En fait, ça envoie. Et qui est ce type-là? Bah, c'est le fils du parrain, du gros parrain de la pègre qui
contrôle. C'est pas ce qu'on appelle une mauvaise pioche. Hein.
Et en fait, eh bien. Suite à cela, bien entendu, il va y avoir vengeance de la part du clan opposé. Hein. Ouais, t'as tué mon fils et tout. Il faut vengeance, il faut qu'il y ait une vengeance, c'est normal, rétribution, tout le bordel et tout. Et bon, là, le parrain là qui fume le cigare là est très bon, une voix grave et tout, super acteur, vraiment très très bon. Et à un moment, quoi, comme on l'a attaqué, bah il répond. Et ce qu'il va faire, eh bien, il va tuer par inadvertance, hein, parce qu'en plus les scènes d'action, tu vois les mecs qui tirent dans tous les coins. Alors, ils essayent d'imiter le style Hong Kong, tout ça. Mais alors, ils y sont pas du tout. Bon, ça en est presque risible, mais c'est quand même vachement bien. Il tue par inadvertance, eh bien, le frère du héros, quoi, qui va décider, lui, eh bien, également de se venger. Mais ce frère n'a rien à voir, parce qu'au départ, eh bien, on le voit, il vend à manger dans une espèce de petit coffee shop.
De rue,
ça,
oui.
Ouais, un truc comme ça, des hamburgers, tout ce que tu veux, quoi. Donc, il n'y a rien à voir, quoi. Et puis, bon, en fait, du fait de la fusillade, lui, il essaie de sauver un maximum de gens, parce que on croit que c'est lui le héros dans la première partie du film, la première heure du film. Tu crois que c'est lui le héros et tout. Ouais, il va arriver jusqu'à la fin, génial. Il y a une scène de baston où il se prend pour Bruce Lee. Et d'ailleurs, bon, on lui reproche après, quoi, parce que bon, t'as la même scène où Bruce Lee dégomme un mec, quoi, tu sais, et puis lui écrase la tête et tout. Comme dans Big Boss, pareil, quoi, vraiment le même truc, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Et donc, le héros, c'est-à-dire le frère qui est supposé être Benet, qui pense qu'au filles et tout, il y a une scène comédie musicale où tu les vois partir comme ça en chantant, ils vont faire un pique-nique sur la plage et tout, ça finit tous, ils sont dans la boue et tout, en chantant, quoi, tu vois, dans la boue et tout, enfin c'est trop bien vraiment. Et donc la seconde partie, bah, ce frère qui est supposé être Benet a décidé de se venger et donc il va kidnapper toute la famille, hein, du parrain. Et donc c'est la poursuite bon bah qu'est-ce qui va se passer, vous le saurez en regardant ce film si vous arrivez à le trouver. Family Ties of Blood, un très très bon film d'action, hein, qui nous vient de Bollywood, hein, de Rajkumar Santoshi. Voilà, donc pour toute cette période Bollywood, on va terminer par la télé quand même, 13h25. Ah ouais, tu vois, bah, j'ai
comme quoi t'arrives à déborder.
Non, mais c'est.
C'est tout un art. Donc ouais, je tiens à signaler quand même que du sport m'a appelé en pleurant hier en disant y'a rien dans le sport. Et moi j'étais là, et mince, y'a pas de Thomas.
Bah tu vois, on y arrive quand même.
On y arrive quand même.
Allez, la télé. De la télé, et puis en me jetant sur le programme de cette semaine, eh bien j'ai quand même trouvé quelques petites choses intéressantes de l'inédit, avec déjà ce soir, demain soir sur la chaîne Syfy, dimanche soir sur Syfy, c'est quoi? C'est Battlestar Galactica, dont la saison 3 s'achève demain soir avec le double épisode final, qui s'appelle Crossroads, demain soir sur Syfy. Il y a également l'épisode final de cette série dont on a parlé la semaine dernière, à propos des séries qui parlent de télévision et qui critiquent un petit peu le monde de la télé, c'est cette bonne série, hein, qui s'appelle Studio 60.
Elle arrive ?
Non, c'est la fin sur TPS Star vendredi prochain à 20h50.
C'est une chaîne
les deux derniers épisodes où ce sera rediffusé, t'en fais pas. The Disaster Show and What Kind of Day Has It Been. Studio 60, donc les deux derniers épisodes la première et dernière saison. Il n'y a pas eu d'autre saison, hein, la série a été annulée.
À rappeler que c'est Matthew Perry qui est le rôle principal et que derrière, eh ben, c'est les rédacteurs et les producteurs.
Aaron Sorkin, donc, qui a écrit cette série, qui est le créateur de À la Maison Blanche, entre
West autres. Wing. Voilà, et c'est le concept de West Wing dans le. Vu côté programme télé, et en plus c'est un programme télé qui est ce qu'on appelle les programmes humoristiques, c'est Saturday Night Live. Donc ça j'ai pas vu, hein, je sais pas ce que ça
c'est,
donne.
Studio 60, on est dans les coulisses d'une émission de télé hein, qui est un petit peu l'équivalent de Saturday Night Live, à savoir une émission comique qui passe très tard le soir, généralement le samedi soir. On a également de la rediff, et là c'est pas mal, hein, c'est TF1 qui vous propose le pilote jeudi prochain de Esprit Criminel, Criminal Minds, avec l'excellent Mandy Patinkin à 22h30 jeudi prochain sur TF1. Sinon ce soir dans New York District, alors là ça vaut le coup, un épisode qui a été l'épisode le plus regardé de la saison 9 de New York District. Pourquoi ? Rappel des fêtes, à partir de la saison 8, un certain Benjamin Bratt fait son apparition de la série aux côtés de Jerry Orbach, hein, les deux flics sont chargés d'enquêter sur les crimes, alors que je vais pas vous refaire le générique. Et ce Benjamin Bratt était connu à l'époque, pas par ses rôles, ses différents rôles au cinéma, pourtant il était assez convaincant, par exemple dans Les Princes de la Ville, le film de Taylor Hackford, mais parce que c'était Monsieur Julia Roberts à l'époque. Et dans la saison 9, eh bien, dans l'épisode Une Affaire de Cœur, on voit apparaître comme guest star Julia Roberts, ce qui en a fait l'épisode le plus regardé de la saison. C'est cet épisode qui vous est proposé ce soir sur TF6 à 20h50, donc premier épisode d'une série de 3. Une Affaire de Cœur, donc, avec Julia Roberts de la saison 9 de New York District, suivi de l'épisode Table Rase et suivi de l'épisode Le Poids d'une Amitié. À signaler également dans la même franchise, New York Section Criminelle qui fait très fort. Et là, on a vraiment de la chance parce que ça fait deux dimanches que ce sont les élections. Demain, votez, c'est le deuxième tour. Votez dur, votez mou, mais votez dans le trou quand même. On a été surpris dimanche dernier. On a failli se faire surprendre parce qu'il y avait la soirée législative sur la Une. Et d'habitude, ça prend des plombes, jusqu'à 11h, et là, 10h30 et tout,
22h30,
bam. Allez, vas-y, que je te fous un petit New York Section Criminelle, et bien c'est encore plus tôt, demain soir, 21h40,
New York Section Criminelle. Ils sont sûrs des résultats, là.
Ouais. Alors, dimanche dernier, il y avait l'épisode dans lequel il y a le retour de Mike Logan, qui est l'inspecteur au départ de New York District avec Jerry Orbach, avec Jerry Orbach la première saison, vu que dans les deux premières saisons, Chris Nott fait son apparition dans la troisième saison, mais pratiquement tout au début, donc. Et là, dimanche dernier, c'était l'épisode où on retrouve Chris Nott, histoire de l'introduire de nouveau dans la franchise New York Section Criminelle, vu que Vincent D'Onofrio commençait à péter les câbles, il arrivait complètement défoncé pour faire ses trucs et tout. Dommage, parce que c'est un excellent acteur, il avait trouvé un rôle à sa mesure, là c'est un petit peu dommage quand même. Et donc Chris Nott reprend du poil de la bête, hein, comme inspecteur, toujours dans son rôle, c'est-à-dire Mike Logan, celui qui avait tapé sur un député, donc qui s'est fait transférer à Staten Island. Il a jamais disparu, hein, de la série, hein, même dans New York District, quand on l'évoque dans les saisons suivantes où il n'apparaît pas, celui qui a été muté a dit à Staten Island et tout. Et là, il refait son apparition parce qu'il est mêlé, du fait de sa petite copine, il est mêlé à une affaire dans laquelle D'Onofrio et Eames, à savoir Catherine Herb, vont enquêter, qui se passe dans une prison d'ailleurs, où il y a des mecs, ils se rendent compte qu'il y a des types qui sont... L'épisode est très très intéressant parce que ça parle sous mots couverts, hein, de ce qui se passe, c'est-à-dire la justice d'exception, sous coup de terrorisme, on peut emprisonner des gens, sans savoir qui c'est, viser un petit peu l'allusion. Sauf que là, ça se passe dans une prison new-yorkaise, donc c'est encore plus énorme de toute façon. Et là, dans les épisodes de demain soir, eh bien, c'est également une collaboration vu qu'on va, on voit apparaître celle qui va être la partenaire féminine de Chris Knott dans les nouvelles saisons de New York Section Criminelle. Là, il s'agit de la saison 5, et donc on voit Annabella Chiora, Chris Knott et Vincent D'Onofrio, notre inspecteur Goren favori, dans le rideau tombe, suivi de l'enfant chéri, suivi de Allez simple pour l'enfer. Hein, les simples pour l'enfer, d'ailleurs catégorie moins 12, hein, donc bien trash. Passons du coq à l'âne avec un petit peu d'animation. Et c'est peut-être quelque chose que tu as vu. C'est passé sur Canal+. Et là, il y a encore l'occasion de le revoir. Et c'est con, j'ai pas noté l'heure. Alors donc, vite fait, j'essaie de vous retrouver ça. C'est ce soir également sur Canal+ décalé. C'est une série d'animation japonaise qui s'appelle Afro Samurai.
Attends, c'est ce soir, Champlou, c'est Samurai Champlou plutôt.
Non, c'est ça, Afro Samurai.
Je connais pas.
En fait, dont on diffuse les 5 épisodes, hein, 5 parties, donc des épisodes assez courts, vu que ça part de 20h50 pour se terminer à 22h45. C'est l'histoire, dans le Japon féodal, à la chercher l'erreur, d'un guerrier samouraï afro-américain qui traque l'assassin de son père, tué lorsqu'il était enfant. Alors, autant que je sache, à moins que j'ai une vision de l'histoire complètement distordue et qu'il y a des passerelles dans le temps, il n'y avait pas d'afro-américains au temps du Japon féodal.
Non, je crois pas. Mais bon,
laisse tomber les raccourcis scénaristiques. On en fait des pelles, c'est pas grave. Demain soir.
Enfin, justement, puisque je parlais de Samurai Champloo, là c'est encore une série à voir, puisque c'est censé se passer à la fin du 19e, et pourtant tu vois les samouraïs rapper quand même. C'est-à-dire, c'est rap à mort et tout ça, c'est la même équipe qui avait fait Cowboy Bebop. Donc
ouais, bon.
C'est bonheur. Ils adorent délirer là-dessus.
Alors en ce moment à l'affiche un film dont Thomas va peut-être nous parler, pour moi ça m'étonnerait quand même, quoi. C'est Ocean 13, je crois, hein.
Oui.
Hein, je vous propose de voir l'original dans le cadre.
Il y avait eu deux suites.
Dans le cadre, bah oui, il y a Ocean's 11, ensuite Ocean 12, et là on en est à Ocean 13.
Oui, mais la série originale, il y a eu qu'un film.
C'est pas une série, c'est un film au
départ.
Il y a
eu qu'un film.
Et c'est dans le cadre d'une soirée spéciale Frank Sinatra sur 13e rue demain soir.
Et le Rat Pack.
Avec le Rat Pack au grand complet dans ce film qui s'appelle L'Inconnu de Las Vegas, le film de Louis Milestone en 1960. Et la superbe prestation d'Angie Dickinson. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, les jeunes maintenant ils disent, oh, elle est bonne celle-là. Et c'est suivi d'un documentaire très intéressant. Le film est vachement long, hein. Il fait 2h10 hein, quand même, hein. L'histoire du hold-up dans le casino et tout. Enfin bon, ce qu'ils ont repris dans Ocean's, le premier. Hein,
dans le premier, c'est exactement le même.
C'est le même, hein, on va dire, quoi. Mais en moins bien. Parce que personne n'égalera jamais Dean Martin, de toute façon. Et qui a Brad Pitt, quoi. à 23h donc dans cette soirée Frank Sinatra demain sur 13e rue, un documentaire super intéressant de Clara et Robert Cooperberg. J'ai pas eu le temps de chercher les autres documentaires qu'ils avaient fait. Généralement ils touchent un petit peu à tout, mais c'est toujours des super documentaires. Là c'est Sinatra raconté par le FBI. Il faut savoir que le patron du FBI avait fait une fixette sur Frank Sinatra. Il croyait que c'était un communiste convaincu, que c'était un drogué et tout. Et donc il l'a fait suivre, il l'a fait filer.
Et en plus il était proche du crime organisé qu'il déniait absolument exister.
En plus, alors que Edgar Hoover est également proche du crime organisé, ça on l'a appris par la suite. Et donc, au travers des plus de 1500 feuillets qui ont été établis par le FBI à l'époque sur le personnage Sinatra, écoute téléphonique, surveillance, tout le bordel, ça nous donne un documentaire pas piqué des hannetons, hein, sur Sinatra, donc raconté par le FBI demain soir sur la 13e rue à partir de 23h pour le documentaire. Un final encore, et là c'est vraiment le final de la série, c'est pas seulement le final de la saison, c'est la 7e saison, c'est Star Trek Voyager qui s'achève donc, et dont on peut voir ce final, un épisode en deux parties, la fin du jeu 1 et 2 sur Canal Jimmy.
Alors est-ce qu'ils reviennent sur Terre ?
Lundi à partir de 23h15, hein, c'est une rediff, hein, là, vous avez loupé la première diffusion, c'était mercredi dernier. Sinon, il y a même de l'inédit avec la saison 3 de Numbers qui démarre comme ça, en catimini un petit peu. peu, on va dire, hein, sur M6 vendredi prochain. Bon, c'est quand même du prime time, vu que c'est à 20h50. La saison 3 avec deux épisodes qui sont collés, puisque le premier épisode s'appelle Vivre, point de suspension, et le deuxième s'appelle Mourir. Avec un nouveau personnage, un flic qui va donc aider Rob Moreau et l'autre, je me rappelle pas comment il s'appelle, les deux protagonistes principaux de cette série qui s'appelle Numbers, qui n'est autre que Lou Diamond Phillips. Ouais! Ensuite, on a encore un documentaire, encore une rediff là. Si vous l'avez loupé, ben vous n'avez plus aucune excuse. Je vous le redis ce soir, encore une fois, sur 13e rue à 23h40. La vérité sur le Dahlia Noir, le documentaire basé sur le bouquin de Steve O'Dell avec bien entendu James Ellroy qui vient, qui intervient et tout, hein, puisque ça parle également du meurtre de sa mère qui aurait été liée soi-disant au meurtre du Dahlia Noir, tout ça dans ce documentaire. Bon, Steve O'Dell en fait un petit peu trop, et puis bon, on voit que bon, ex-flic et tout, bah il fait quand même bouillir la marmite avec cette histoire et tout, c'est pas mal.
Et acheter des livres.
Le documentaire et les arguments ne sont pas tellement contredits, c'est-à-dire que bon, bah ok, hein, on marche dedans. Si tu marches dedans, y a pas de problème, tu vas suivre, tu vas y croire. Hein, y a un procureur qui déclare oui, si on avait eu ces mêmes éléments à l'époque, pas de problème, le mec se faisait condamner. Le mec n'est autre que le père de Steve O'Dell, hein, il découvre ça par hasard au départ après la mort de son père. Et c'est un petit peu dommage parce que bon bah c'est y a pas vraiment d'arguments contradictoires hein, qui pourraient un petit peu défendre, si ce n'est comme dans le crime du Zodiac, eh bien ces fameuses analyses graphologiques hein, dont on parlera et reparlera. Donc hein, bon, moi j'ai toujours considéré que c'était un petit peu du pipeau, mais enfin bon, hein, ce n'est que mon avis personnel. Sinon, dans un registre complètement différent, à la télé cette semaine, et j'en ai presque terminé, quelques petites émissions comme ça pour se détendre la tête. Alors là, retour en arrière, mais très très loin, c'est sur Paris Première, mercredi prochain à 20h50, dans cette émission qui s'appelle Vive la télé, qui est animée par et présentée par Philippe Gildas, hein, et dont l'invité sera Maréva Galanter, dont l'excellent dernier album bien disparu de la discothèque d'éphémère. Et là, j'ai vraiment les boules. Et Vive la télé est une émission dans laquelle bien Gildas nous présente des vieilles émissions de télé, hein, quand toi t'étais pas né encore, hein, et que moi j'étais tout petit quoi. Alors dans cette émission de mercredi prochain, on aura des émissions de Dim Dam Dom.
Ou punaise,
1967
sur la 2.
Dim Dam Dom, c'est
sur la deuxième chaîne couleur.
C'était dimanche pour les dames et également pour les hommes d'hommes, hein, et il y a également Âge tendre et tête de bois d'Albert Reisner en 63, Discorama. Discorama, c'était une émission qui parlait de musique et de présentation des disques qui sortaient à l'époque. Discorama de 65. Donc tout ça dans Vive la télé, mercredi sur Paris Première à 20h50, suivi d'un documentaire vraiment sympa qu'on avait déjà vu, mais qui se laisse re-regarder avec plaisir, qui s'appelle Mamie Scopitone. Le Scopitone, une invention française, mon petit vieux.
Oui, et d'ailleurs, tous les Scopitones étaient tournés justement dans une villa à Saint-Tropez, très précise. La fille, elle les faisait tourner chez elle, et il y a eu toutes les stars qui débarquaient. C'était pratique, il montait dans la cave et puis il tournait dans le jardin.
Ouais, et puis voilà. On en trouve peut-être encore comme ça, des Scopitones.
Il y a un site là-dessus, il faut que je le remette dans les bookmarks. Mais...
Non, mais moi je me rappelle que les Scopitones...
Il y a un site qui les retrouve tous.
Alors c'est les Scopitones, hein, c'est les machines, bon il y avait les jukebox dans les cafés, hein, dans le temps, quoi, et les Français avaient inventé le jukebox avec image. C'est-à-dire t'avais le jukebox, tu tapais ton truc...
Ça ressemblait à un téléviseur en hauteur.
Un petit téléviseur qui devait faire 15 cm tu vois de long par 10 cm de large, et t'avais les images du morceau qui passait, hein, de tous les tubes de variété des années 60.
C'était du 8 mm.
Et qu'on a retrouvé, il en restait encore quelques dans les années 70, mais il fallait aller dans les cafés arabes et tout, parce qu'il y avait qu'eux qui les ramenaient et tout, quoi, qui continuaient à tourner avec ces trucs là quoi, et qui avaient introduit justement quoi, il y avait également quelques scopitones de chansons arabes, de chansons de rail, enfin à l'époque ça s'appelait pas le rail, hein, c'était dans les années 70.
Ça s'appelait le rail à l'époque. J'en écoutais quand j'étais gamin en Algérie, mais ça n'a rien à voir avec le rail de Chem Mami.
Pas du tout. Non,
ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus orientalisant.
Ouais, mais c'est vraiment très très bien, quoi. Et exactement. Je termine cette rubrique télé avec le documentaire, la case documentaire d'Arte en troisième, quatrième partie de soirée du vendredi.
Aïe.
parce que là ça passe vraiment très tard, là j'ai les boules tu vois, parce que bon c'est dommage, mais c'est deux documentaires femmes avec ou sans dessous. Ah, 0h20, les dessous ont une histoire, hein, l'histoire des dessous féminins, donc un documentaire qui était déjà passé sur Arte vu qu'il date de 2005, le commentaire de Jean-François Balmer, suivi à 1h25 d'un documentaire qui s'appelle Street de velours, hein, qui raconte les pérégrinations et qui explique ce qu'est le Hammer Theater, un théâtre anglais qui fait dans le burlesque déshabillé.
Voilà, c'est le burlesque, c'est un peu le Moulin Rouge.
Voilà, c'est ça. Exactement. Les revues déshabillées, striptease et tout. C'est-à-dire, tu vois presque tout, mais tu vois jamais tout. Non, tu ne vois jamais. C'était le principe du jeu, justement, de teaser, quoi. Hein, pas de montrer, de teaser, hein, c'est-à-dire de chauffer un petit peu. Tout ça, c'est sur Arte, donc vendredi prochain. Mais ça commence à 20h20, donc c'est un petit peu dur, avec le strip de velours à 1h25 du matin.
Vive les enregistreurs numériques.
Mais que fait la police?
Justement, elle combat le sexe in vitro. Voilà qui conclut avec du retard absolument prévu et assumé à 13h42 quand même. On y est arrivé à deux. Hein ?
On a battu le record.
Non, le record c'était 54. C'était 55 même. Donc c'était le supplément week-end numéro 118. Si vous avez manqué le début de l'émission, heureusement vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites mais aussi vos commentaires. N'hésitez pas, il suffit de chercher dans Google supplément week-end. Radio FMR ou supplément week-end. MP3, vous pouvez télécharger tous les MP3 tranquillement. Donc c'est du bonheur intégral.
Voilà, je voulais préciser juste à propos des films de Bollywood, hein, surtout ceux qui sont vendus comme ça dans la rue, on va dire, que ce sont des copies, hein, de toute façon, hein, faut le dire, hein, de toute façon, quoi. Et qu'il n'y a pas forcément à l'intérieur sur le disque. Bon, les films sont complets. L'image n'est certainement pas regardée sur un grand écran super nickel parce que bon, ça commence à pixeliser pas mal. Même sur un écran normal de télé, c'est regardable quand même. Hein. Il n'y a pas d'image qui saute. Les films sont intégraux de toute façon. Plusieurs versions vous sont proposées, bien sûr. Version originale toujours sous-titrée. Mais des fois, il y a quelques problèmes avec les sous-titres. Alors, par exemple, dans Family, il y a les sous-titres en français. Mais t'as l'impression que le mec qui a fait les sous-titres en français, il a pris le dictionnaire et puis la traduction littérale. Il y a même des mots que j'ai jamais vus en France. Mais bon, il y a un début à tout. Alors que dans Lagan, tu n'as pas... Il y a marqué, hein, c'est marqué French Edition avec sous-titres français et tout. Mais quand tu sélectionnes les sous-titres français, j'ai essayé, hein, tu as quand même les sous-titres en anglais, quoi. Mais là, c'est sous-titres en anglais correct, nickel, hein, pas de problème, très compréhensible. Hein, mais dans la gamme, quoi que tu fasses, tu mets French, tu mets English subtitle, tu as les sous-titres anglais, quoi. Donc, il y a quelques petites coquilles comme ça, quoi, mais qui sont assez... qui passe de toute façon, vu la qualité des films. De toute façon, bah, ça te fait pas mal de films à regarder là.
Oh punaise.
Ah, t'as presque 10 heures de film là, quoi, tranquille.
Bah super, bah, comme ça on va se faire une grillade entre les deux. Entre les deux demi-parties, quoi. Voilà, le supplément week-end, donc c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec JD, la dessinatrice de My Way, dont le deuxième tome vient de sortir chez Chiaopan. Elle sera en dédicace samedi prochain à 15h à la Fnac La Bêche. Elle sera dans le supplément week-end sur Radio FMR. Où on lui posera les questions et tout ça. Donc il y aura Thomas, il n'y aura pas du sport. Mais en attendant la suite des programmes, à 15h le potager, 16h scène transmission, 17h le direct du Summer Festival, 19h Big Bang, 21h vie d'ordure et 21h30 du Two Step avec Stay Tuned. Mais de suite, ça c'est du sport. Ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine avec de l'aquarelle chinoise. Ciao, bye, à plus.